Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de ce 243e numéro de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. L'été indien se prolonge dans notre région et avec lui l'ambiance festivalière de la belle saison. La 28e édition de Toulouse des Orgues bat son plein actuellement et la programmation se poursuit jusqu'au 15 octobre. Il reste encore de nombreux concerts et artistes à découvrir dans ce festival d'ici dimanche, notamment celui du samedi 14 octobre à l'auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines, Missa, Criolla et Requiem, auquel participe le chœur des étudiants de l'ISDAT et notre invité du jour, la pianiste Nadine Laurence, directrice des études musique à l'Institut supérieur des arts et du design de Toulouse. Également présent dans le grand studio de Radio Présence, notre ami Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Il s'est passé beaucoup de choses la semaine dernière, et en particulier les premiers concerts de la saison Toulouse Guitare. Nous allons tout de suite y revenir dans notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bonjour Nadine, bonjour Serge, bienvenue aussi à vous deux. Merci d'être au rendez-vous de Mélomanie. Retour d'abord sur le concert d'ouverture de Toulouse des Orgues, donné mercredi dernier à la basilique Notre-Dame de la Dorade par le chœur Dulci Jubilo, dirigé par son fondateur Christopher Gibert et accompagné par l'organiste Thomas Hospital. Une belle soirée Serge, un peu agité pour Thomas Hospital qui a dû faire montre de beaucoup d'agilité et même de résilience pendant ce concert.
Oui, en effet, puisqu'on lui avait offert pas moins de 3 orgues. Alors, 3 orgues, on peut se poser la question. Une église qui a plus de 2 orgues, ça n'existe pas. En effet, ça n'existe pratiquement pas, sauf peut-être à Saint-Marc de Venise où il y a des orgues
un
qui
peu
se
partout.
Font écho. Bon. Mais là, en l'occurrence, Thomas Hospital avait à la fois le grand orgue Poirier, Lieberknecht, et puis modifié de multiples fois, et puis l'orgue de chœur de Puget. Et le troisième instrument, eh ben, ce n'était autre que le maintenant célèbre explorateur, ce prototype qui applique une technique de pointe au service du son, composé de plusieurs modules, et donc il a erré, il s'est promené en quelque sorte d'un orgue à l'autre au cours de la soirée, mais il l'a fait avec beaucoup de discrétion, on doit le remercier pour cela. Alors, tout au long de ce concert, on peut d'abord dire à quel point Thomas Hospital est un grand virtuose, impressionnant, avec beaucoup d'imagination, à la fois virtuose et musicale. Donc c'est vraiment un grand artiste. Et puis le chœur de chambre Dulci Jubilo, qui a été créé en 2013 par Christopher Gibert, est un ensemble, je pourrais dire, exceptionnel, d'une qualité magnifique.
Oui, très,
ça a
très
été
bon
une
niveau.
Soirée... vraiment admirable. Hein. N'oublions pas que Christopher Gibert est également compositeur.
Oui.
Donc, mais on n'a pas joué d'œuvre de lui ce soir-là. Et le programme était très original, très particulier. Il était un peu conçu comme une œuvre continue, avec 4 étapes en quelque sorte, qui commencent par naissance, puis ensuite joie, puis douleur et espoir. Et la caractéristique de ce programme, c'est qu'il y avait un mélange de styles incroyable, des musiques de toutes les époques, de la Renaissance de Carlo Gesualdo, Orlando di Lasso, aux productions contemporaines de Thierry Esquèche, c'est quand même un grand écart formidable. Et pourtant, il n'y avait pas de hiatus entre les œuvres et suivant les époques auxquelles elles ont été composées. Il y avait également du Brahms. Mais enfin, il faut reconnaître que c'est Thierry Esquèche qui tient lieu de fil rouge de cette soirée. Cette soirée, d'ailleurs, qui a été quand même précédée par un magnificat improvisé, chose nouvelle que je ne connaissais pas, qui a associé le chœur et le grand orgue. Donc, vraiment une soirée incroyable avec des extraits de la Missa Canonica de Johannes Brahms, chantée a cappella d'ailleurs, et puis ces pièces de Thierry Esquèche qui sont magnifiques, hein, qui ont une couleur, un déploiement de performance exactement, à la fois technique, encore une fois, et musicale. Et donc, le titre de ce concert, c'est « Le souffle de l'âme ». Or, ce souffle de l'âme, c'est également le titre du nouvel album qui réunit les compositions originales de Thierry Esquèche, avec le chœur, évidemment, d'Ucci Jubilo, et l'organiste Thomas Hospital qui participe à l'enregistrement de ce nouvel album. Donc la sortie est prévue, je le signale, pour le 10 novembre prochain. Donc on peut déjà peut-être s'intéresser. C'est vraiment très original et très beau, très performant sur le plan de l'expression. Il faut rappeler également une chose importante, c'est que le chœur de chambre d'Uccio Bilo a beaucoup de succès, puisqu'il sera, il participera le 12 décembre prochain à Saint-Jérôme de Toulouse à un concert organisé dans le cadre de la saison des Arts Renaissants. Donc, très bien. Hein.
Sachant qu'ils ont fait, il y a quelques jours, deux semaines maintenant, presque le concert d'ouverture du festival Passion Baroque à Montauban.
Exactement. Donc, c'est un ensemble que l'on entend beaucoup et on peut s'en réjouir.
Et puis, il y a beaucoup de musiciens, de chanteurs qui sont issus de notre région dans ce chœur. Christopher Gibert le premier, puisqu'il est né à Rocamadour qu'il enseigne, il est chef de chant au conservatoire départemental de Montauban. Donc, ça montre encore une fois, et ça, Nadine Laurence peut en témoigner, à quel point la formation toulousaine est riche et nous donne très régulièrement de grands musiciens.
Tout à fait, et on œuvre pour ça.
Bravo.
Nous allons avoir un petit aperçu du programme de ce concert d'ouverture donné par le chœur Uccio Bilo avec cet extrait justement du CD Le Souffle de l'âme avec ce recueil de pièces de Thierry Esquèche. Un extrait du Souffle de l'âme, ce recueil de pièces de Thierry Esquèche, qui a fait l'objet donc d'un CD, à apparaître bientôt, et qui donnait son nom au programme interprété par le chœur Uccio Bilo, sous la direction de Christopher Gibert, et accompagné à l'orgue par Thomas Hospital, mercredi à la basilique Notre-Dame de la Dorade. Je l'ai rappelé en introduction de ce numéro, ce week-end avaient lieu les premiers concerts de la saison Toulouse Guitare. Il y en avait trois à Saint-Pierre-des-Cuisines, vendredi et samedi soir, ainsi que dimanche en fin de matinée. Un grand week-end dédié à la guitare pour les étudiants des pôles supérieurs de musique français, venus par dizaines d'un peu partout. Élise Date était évidemment partenaire de l'événement, Nadine Laurence.
Oui, en effet. En fait, ce projet est né à Élise Date. Lorsqu'on a ouvert la classe de guitare en 2019, donc avec Rémi Joussel, mais Benoît Albert, les professeurs, et notre parrain, Thibaut Garcia. Je leur ai dit, écoutez, les garçons là, on essaie de monter un projet avec l'ensemble des établissements supérieurs français. Ils m'ont dit, d'accord. Puis bon, le Covid est passé par là, donc ça nous a permis de mûrir le projet, de s'associer avec Toulouse Guitare, parce que plus on est nombreux, plus on est fort, plus on est solide pour faire de beaux projets. Et ce qui m'a énormément touchée, c'est lorsque, en janvier 2023, j'ai adressé l'invitation au pôle supérieur français et au CNSM de Paris. Ça a été leur retour immédiat de dire « Ah, mais quel magnifique projet ! Oui, on sera avec vous, on enverra nos étudiants et nos enseignants. » Donc ce projet a réuni 45 étudiants des 9 pôles supérieurs français et du CNSM de Paris et 14 professeurs. Donc tout le week-end, un week-end autour de la guitare avec des conférences, des masterclass, des luthiers, une table ronde de réflexion qu'on a menée avec les enseignants sur l'enseignement aujourd'hui, l'insertion professionnelle de nos jeunes étudiants et de nos diplômés, parce que ça nous questionne, c'est important qu'on réfléchisse tous ensemble à cela. Et il y a eu vraiment une énergie magnifique tout au long du week-end.
Oui, Serge, vous pouvez en témoigner parce que vous avez assisté aux 3 concerts.
Ah, absolument, là, c'était une nécessité, vraiment, et je n'ai pas regretté, je veux dire. Et les 3 concerts étaient différents, tout allant dans le même sens, c'est un peu la guitare dans tous ses états, qu'on avait assisté pendant ce week-end. Et donc le premier de ces concerts avait lieu vendredi 6 octobre, donc toujours évidemment à l'Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, et donné par quelqu'un que l'on connaît déjà à Toulouse, Lorenzo Micheli, oui, qui est un Italien, donc d'origine italienne, et qui était déjà venu en 2020, mais en duo avec Matteo Mela. Ils avaient donné tous les deux un très beau concert qui avait été très apprécié. Et là, il est venu tout seul pour explorer un répertoire à la fois rare et original. C'était vraiment incroyable comme il a composé ce programme, en commençant par des transcriptions, notamment le premier, c'était la transcription de « Der Tod und das Mädchen » de Schubert, là, dont « La jeune fille et la mort ». C'est d'ailleurs pas pourquoi en français on inverse le titre
original, c'est « La mort et la jeune fille,
la mort et la jeune fille.
En allemand, oui.
Et en français, on a tendance à dire « La jeune fille et la mort ». Peut-être parce qu'on se veut optimiste. Mais bon.
Peut-être aussi parce que ça sonne mieux.
Peut-être.
C'est plus fluide.
Et donc, dans une transcription de Ferdinand Robet, et lequel Ferdinand Robet a composé la deuxième œuvre, qui est aussi faite cette fois de variations, sur un Lied de Brahms, Wiegenlied, c'est-à-dire berceuse, donc tragédie et douceur se succédaient. Et puis ensuite, il y a eu un hommage à Claude Debussy, et puis une œuvre de Debussy, donc c'était couplé en quelque sorte, deux par deux. Et alors, d'un compositeur dont on parle très peu, c'est Georges Migaud, compositeur français. L'œuvre date de 1924, donc vous voyez, ça situe à peu près le style, avec une œuvre à la fois subtile et imaginative. Puis ensuite, une transcription de Mario Castelnuovo Tedesco de Minstrel de Claude Debussy, et qui était très fidèle à l'original, d'ailleurs, qui n'est pas pour guitare, bien entendu, qui est pour piano. Et cette première partie se terminait par Caprichos di Goya de Mario Castelnuovo Tedesco, le grand compositeur de la guitare. Il y avait en fait 3 extraits de ce Caprichos, avec un extrait très virtuose. Et puis alors, ce qui est surprenant, c'est une variation sur le dies irae, qui était incroyable, vraiment étonnante. Et puis toute la deuxième partie était consacrée à quelqu'un auquel on ne s'attendait pas, Benjamin Britten. Et donc de Benjamin Britten, eh bien, il a joué les Nocturnal After John Dowland, qui était originalement écrit pour la guitare et qui était dédié au grand guitariste Julian Bream, mon grand guitariste,
oui, oui.
Ami de
référence, oui.
Grande référence, avec une série de pièces qui varient beaucoup là aussi, de la méditation à l'agitation, de l'inquiétude à l'anxiété, du songe, cette espèce de mélange d'affect, en quelque sorte, on pourrait dire. Et donc, vraiment, un ensemble d'œuvres complexes, exigeantes, mais magnifiquement éclairées, par l'interprète. C'est vraiment un grand, grand musicien qui a dû jouer 2 bis. Un bis de Castelnuovo Tedesco, un rondo, et puis Morito, d'un autre compositeur de guitare, Morito, l'Accabadora, donc une deuxième pièce qui a eu énormément de succès. Évidemment, l'auditorium était plein, avec beaucoup d'élèves d'ailleurs qui étaient venus en marge des masterclass auxquelles ils assistaient, des conférences auxquelles ils assistaient.
Et c'est toujours une ambiance très particulière à Toulouse Guitare, qui n'a rien à voir avec les autres concerts qu'on peut entendre à Toulouse.
C'est vrai, c'est vrai.
Voici un extrait du programme que Lorenzo Micheli a joué vendredi soir à Saint-Pierre-des-Cuisines, « Quien más rendido », un des Caprichos de Goya de Mario Castelnuovo Tedesco.
Thank you.
Quien más rendido, le 13e des Caprichos de Goya de Mario Castelnuovo Tedesco, interprété par Lorenzo Michelli, une des pièces qu'il a jouées vendredi à Saint-Pierre-des-Cuisines. Et le lendemain, au même endroit, eh bien c'est Thibaut Garcia en personne qui s'est produit pour la première fois à Toulouse Guitar, avec un programme largement inspiré du CD El Bohemio, qu'il a fait paraître récemment sous le label Erato Warner Classic, CD consacré à Agustín Barrios Mangoré. On y était tous les deux, Serge, et on a vraiment vécu une soirée magique. Je pèse mes mots quand je dis ça. Hein.
Ah oui, oui, je suis tout à fait d'accord. C'était impressionnant pour deux raisons. D'une part, une raison musicale, hein, c'est la très belle musique que notre cher Thibaut Garcia joue magnifiquement. Mais en plus, Thibaut est un conteur et il nous a beaucoup parlé de ce compositeur paraguayen incroyable qui avait des tas de surnoms. El Bohemio, donc, mais également le Chopin de la guitare et même le Paganini des jungles du Paraguay. Il faut vraiment, ça ne s'invente pas. Donc, il a été tout cela et il a même changé son nom puisque son prénom, il l'a inversé pour que ça devienne Nitsuga Mangoré. Du nom d'un Guarani, d'un Indien Guarani.
Parce qu'il avait du sang Guarani lui-même.
Oui, 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 exactement, exactement. Voilà, on a eu droit à des alternances de pièces entre Mangoré lui-même, enfin Barrios, et également Chopin, ma foi, dans un arrangement du paraguayen, évidemment, et même Beethoven avec un arrangement du premier mouvement de la sonate au clair de lune de Beethoven qui sonnait sous les doigts de Thibaut Garcia comme un original. On avait l'impression que c'était écrit, que Beethoven l'avait écrit pour la guitare, ce qui n'est évidemment pas le cas du tout. Donc, il y a eu ces alternances très bien faites avec un programme qui nous raconte une histoire. Et c'était vraiment magique, tout à fait. Hein. Et il a terminé ce programme par la pièce la plus célèbre d'Agustín Barrios, qui est La cathédrale, écrite autour de la cathédrale de Montevideo. D'ailleurs, on a eu une confidence de Thibaut Garcia qui nous a dit que sa mère considérait que c'était un monument, effectivement. Et c'est un monument, oui, oui, avec ses trois volets qui à la fois évoquent son entrée dans la cathédrale avec l'impression que donne l'orgue, puis les cloches, le retentissement des cloches, et puis enfin le contraste avec la sortie dans la rue et l'agitation de la rue. C'est vraiment une pièce très belle, très originale, que Thibaut Garcia a évidemment enregistrée dans son album CD qui a paru d'ailleurs.
Qui est paru le 22 album. Septembre dernier.
Ah oui, oui, oui.
C'était un concert de sortie de disque, hein, on peut le dire.
Ah oui, 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 absolument. Et donc, le succès a été immense, évidemment. Il y a même certains qui n'ont pas pu entrer tellement la salle était pleine. Et il a donné quelques bis, avec notamment un bis de Barrios qui s'appelle Machiche. Et puis il a terminé, alors...
Ça, c'était inattendu.
En contraste, c'était inattendu, mais d'une émotion incroyable, les voix humaines de Marin Marais, le compositeur de viol de gambe.
Mais, donc, pièce composée à l'origine pour la viol de gambe,
oui,
donc
bien sûr.
Transcrite là pour la guitare. Mais moi, j'avais presque l'impression d'entendre un théorbe.
Oui, oui, oui.
Mais je suis persuadé que c'est un instrument qui est fait pour Thibaut.
Oui, oui.
Et je crois qu'il lorgne déjà un peu dessus, parce qu'il a dit d'ailleurs, il est passionné par le baroque.
Ah, absolument, absolument.
Et ça, c'est familial aussi. Hein. Oui. Toute la famille est passionnée par le baroque.
Oui. Oui, oui, exactement. Et donc, cette conclusion du concert était vraiment... on retenait sa respiration.
Alors, il y avait une émotion palpable dans la salle.
Oui, oui,
moi,
absolument.
J'ai vu des gens en pleurs. Enfin, c'était... Non, il y avait énormément d'émotions. Ouais, énormément d'émotions. Et il y avait énormément d'émotions pour Thibaut. Il vous l'a confié, d'ailleurs,
bien
Nadine.
Sûr. Bien sûr, Thibaut aussi était très, très ému d'être à ce concert avec tous ces jeunes guitaristes autour, avec tout ce projet qu'on a monté tous ensemble et on s'est dit voilà, là c'est l'aboutissement du travail de plusieurs années, d'organisation, de réflexion, de se dire est-ce que ça peut marcher, est-ce que ça peut pas marcher, et on s'est dit allez, on est à l'aboutissement de ce magnifique projet. Et Thibaut était très ému.
Et puis comme l'a rappelé Serge Chosy, moi il y a une chose qui me frappe, c'est que c'est un chercheur, un cherchant même on peut dire, passionné par l'histoire des compositeurs.
Oui.
Puis on voit que c'est pas chiqué, vraiment il va chercher des détails dans les biographies et il aime passer, c'est un passeur aussi. Hein.
Il fouille profondément dans les œuvres des compositeurs, dans leur vie.
Dans leur vie.
Ah oui, oui.
Parce que les deux se nourrissent, hein, l'œuvre et la vie, la vie et l'œuvre se nourrissent.
Et on avait vraiment l'impression d'y être, il nous a fait vivre cette vie de Barrios.
Exactement.
Incroyable.
Un grand moment.
Alors, il y a l'embarras du choix là, pour écouter un extrait du CD El Bohemio, le Bohème, et du programme donc, de samedi dernier. L'une des œuvres les plus connues d'Agustín Barrios Mangoré a pour titre La cathédrale, on vient d'en parler. On va écouter son troisième mouvement, Allegro Solemne, évidemment sous les doigts de Thibaut Garcia. le troisième mouvement Allegro solenne de la cathédrale d'Agustín Barrios Mangoré, un extrait du magnifique CD El Bohemio que Thibaut Garcia a consacré au guitariste-compositeur paraguayen. Ce disque est paru il y a 2 semaines sous le label Erato Warner Classic, unanimement salué par la critique. Alors donc, dimanche, c'était le feu d'artifice final à 11h30, donc toujours à Saint-Pierre-des-Cuisines, avec l'ensemble des élèves des pôles supérieurs français qui étaient présents, donc il y en avait une quarantaine. Alors comment ça s'est passé, Serge, racontez-nous, on ne peut pas tout raconter parce qu'il s'est passé tellement de choses.
Bien sûr, ça s'est très bien passé. Alors, les 40-45 ne jouaient pas tous ensemble, évidemment, c'était des petits ensembles, quelquefois un seul guitariste qui représentait son école, et quelquefois ils étaient 4, quelquefois ils étaient 5, et peut-être que Nadine Lorenz pourrait nous dire quelles étaient les villes représentées, donc les établissements représentés.
Alors, il y a en France, en principe, un établissement d'enseignement supérieur par région, dont nous avions l'ESM de Bourgogne-Franche-Comté, la IR de Strasbourg, qui est une école des arts, l'école des arts du Rhin, qui est un petit peu comme l'ISDAT, avec les beaux-arts associés à la musique. Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Je précise juste qu'il n'y a pas de classe de guitare au Conservatoire de Lyon. Conservatoire supérieur de Lyon, c'est pour ça que Lyon n'était pas représenté.
Ah oui.
Le pôle SUP 93, c'est donc le pôle d'enseignement supérieur de La Courneuve-Aubervilliers. Le pôle SUP Paris-Boulogne, donc Paris-Boulogne-Billancourt. Le pôle supérieur d'Aquitaine, donc à Bordeaux. Le pont supérieur à Rennes, qui réunit 2 villes, Rennes et Nantes. Le SMD de Lille. Et bien sûr, l'Institut supérieur des arts de Toulouse.
Ah oui. Vous vous rendez compte, Serge?
Tout de même.
Quatrième tout le pays, là.
C'était impressionnant de voir se succéder ces jeunes gens, jeunes filles, jeunes hommes, donc, qui se succédaient. Quelquefois seuls, il y avait des solistes qui ont très très bien joué. Et on a pu constater le haut niveau technique et musical de ces jeunes musiciens. Hein, donc, bravo à tous. Alors, il y avait le choix des œuvres était impressionnant. Ça allait du Moyen-Âge pratiquement à aujourd'hui, puisqu'il y avait notamment un ensemble. L'ensemble issu de Rennes qui a joué le premier mouvement de Mishima de Philippe Glass quand même. Et puis il y a un jeune musicien, Erwan Paris, il s'appelle, qui a joué une œuvre actuelle d'Arthur Campella qui s'appelle Percussion Study et dans laquelle il utilisait sa guitare comme un instrument à percussion. Hein, donc on a eu tout, c'est vraiment avec évidemment des œuvres d'Albéniz, de Rinastera, de Falla, de Moreno Toroba, bien connu, et puis des noms que l'on n'attendait pas forcément. Francesco da Milano, John Dolan, ce qui était très bien, on s'y attendait. Et puis des musiciens moins connus, comme Mathias Duplessis, avec un quatuor.
On a souvent vu à Toulouse Guitare, Mathias Duplessis, entendu et vu d'ailleurs.
Oui, exactement. Et donc, une succession de pièces très diverses, très ouvertes, avec également quelques allusions au Brésil, avec une œuvre d'Egbert Gismonti, et puis de Sergio Assad, de Brésilien. On a eu un vrai festival de guitare qui a duré quand même 2 heures. Une belle performance pour tous ces jeunes qui ensuite se sont réunis sur le plateau pour recevoir les acclamations qui étaient extraordinaires d'un public évidemment enchanté et qui avait rempli bien sûr la salle de cet auditorium.
La grande fête de la guitare à Toulouse, donc le week-end dernier. Alors Nadine Lorenz, est-ce qu'il pourrait y avoir une deuxième édition, voire une troisième? Est-ce que cet événement pourrait se pérenniser? Est-ce que Toulouse pourrait devenir une espèce de grand centre de la guitare classique en France?
Alors écoutez, aujourd'hui on n'en est pas encore là, parce que je voudrais quand même saluer aussi la collaboration avec Toulouse Guitare et avec Gaël et Jules Garcia. Et on a vraiment travaillé main dans la main pour mener à bien ce projet. Et on va faire
aussi
un bilan.
Il y a beaucoup de bénévoles qui ont accueilli
et
chez eux les jeunes guitaristes.
Tout à fait. Beaucoup de bénévoles côté Toulouse Guitare. Mon équipe extraordinaire de l'ISDAT qui a été présente aussi sur tout le week-end.
Notamment avec Rémi Jussel, mais Benoît Albert.
Exactement. Et aussi, je parle l'équipe pédagogique, mais aussi l'équipe administrative qui a œuvré, qui a été là, qui a été en lien permanent avec les étudiants. Enfin, merci à toutes ces belles personnes qui ont travaillé à nos côtés. Nous allons faire un bilan et puis on va voir. Après, on se dit aussi que ça peut donner l'idée à d'autres établissements supérieurs de proposer aussi
ça pourrait être tournant.
D'accueillir, ça pourrait être tournant sur la France. Voilà, On n'en est pas encore tout à fait à l'heure du bilan, c'est un peu trop tôt. Et puis Thibaut est déjà reparti, donc on est en train de chercher une date pour se réunir et pour faire le bilan de ce week-end.
En tout cas, c'était une grande réussite.
Grande réussite.
Donc bravo, bon, bravo vraiment à tous. Et puis dimanche, c'était aussi, on va changer d'univers, la dernière des Pêcheurs de Perles à l'Opéra National du Capitole, la 7e représentation d'une nouvelle production donnée à guichet fermé depuis le 26 septembre. Autant dire que le succès public a été au rendez-vous fois de plus au Capitole, où c'est devenu une habitude et même une très bonne habitude depuis 2 ans. Serge, vous avez découvert cette production la semaine dernière. Est-ce qu'elle a été aussi, selon vous, une réussite sur le plan artistique ?
Ah, sur le plan musical, absolument. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé, en particulier l'orchestre et la direction de l'orchestre de Victorien Van Oosten, qui est vraiment un grand chef, qui déjà s'est montré...
Un jeune et déjà grand chef.
Ah oui, un jeune chef, mais un grand chef. Et avec une belle distribution, avec une contribution du chœur du Capitole excellente, avec 4 chanteurs vraiment en situation, avec Anne-Catherine Gillet, qui est une Leïla, qui a exactement la voix qui convient pour ce rôle, qui est à la fois agile pour les vocalises et en même temps intense. Mathias Vidal, qui est un nadir sensible, retenu, par moments peut-être un peu trop, mais très émouvant. Et puis Alexandre Duhamel, qui est l'opposé, donc d'un Zourga, qui est... un stentor, qui a une voix phénoménale.
Parfait pour le rôle.
Ah oui, c'est parfait pour le rôle. Et puis enfin, Jean-Fernand Setti, la basse, qui chantait Nour Abad.
Bon, très bien. Formidable aussi, oui.
Oui, très très bien. Mais il n'a pas un très grand rôle, Nour Abad. Hein, mais
non,
c'est
mais
vraiment
il impressionne
bien.
À chaque fois qu'il arrive sur scène, parce qu'il mesure 2 mètres.
Hein. Ah oui, non, mais c'est impressionnant. D'autant plus impressionnant qu'il était habillé de manière, je dirais, un peu étonnante quand même. On aurait presque dit une drag queen.
Oui, l'ensemble des costumes était un peu étonnant dans l'ensemble.
Voilà, alors venons-en à l'aspect visuel. J'ai trouvé de très beaux décors, mais j'ai trouvé que ça faisait un peu Bollywood quand même.
Oui, c'était voulu, je pense.
Ce qui m'a le plus gêné, en quelque sorte, c'est la chorégraphie. Alors, et il est évident que
le
metteur en scène...
Aussi, il y avait toutes les forces
Thomas Lebrun
du Capitole,
est un chorégraphe. Et donc, il a introduit une chorégraphie sans arrêt, pratiquement. Hein. Les danseurs sont en permanence sur scène et quelquefois, c'est un peu envahissant et quelquefois même un peu redondant avec les gestes qui traduisent les accents musicaux, mais peut-être un peu de manière systématique.
C'est un peu surchargé quand même par moment.
Donc,
peu agité, surchargé.
Oui, exactement. Et puis, moi, il y a une chose alors, que je n'ai vraiment pas aimée, c'est dans la scène finale, de voir les garçons arriver en barboteuse, on dirait,
oui,
et danser un French
cancan
sur un final qui n'est pas vraiment en accord, enfin, qui n'évoque pas ce genre de divertissement.
Ce genre de fantaisie, oui.
Un peu étonnant. Hein, donc
on dira que c'est une concession à l'air du temps.
Mais je dois dire, il faut reconnaître que même la mise en scène et la représentation visuelle a été très appréciée du public.
Ah, c'était, je peux le confirmer. Moi, je suis allé à la générale.
Acclamé, hein.
Bon, c'était une générale, je ne me suis pas exprimé là-dessus. Mais effectivement, le public, c'était plein déjà pour la générale.
Oui.
Et le public était aux anges.
Ah oui.
Aux anges.
Mais ce soir-là, j'y étais le 3 octobre, c'était pareil. Hein.
Ouais, le succès public est incontestable.
Hein, succès.
Incontestable et ça lance parfaitement la saison.
Oui. Ah oui.
On aura Boris Godounov,
le prochain.
On a appris que Mathias Goerne était forfait, d'ailleurs.
Et oui, bon, c'est regrettable.
Remplacé par un baryton russe, dont le nom m'échappe là, à l'instant,
oui.
Mais qui est spécialiste du rôle. Donc, dernier petit retour sur les Pêcheurs de Perles, dont je vous propose d'écouter le très beau prélude dans une version de l'Orchestre National du Capitole, mais époque Michel Plasson. Thank you. Le joli prélude des pêcheurs de perles dans une version enregistrée par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Michel Plasson, c'était en 1989. Serge, vous voulez ajouter une petite chose sur l'interlude pendant les pêcheurs de perles, parce que c'est pas dans l'œuvre originale.
Non, même en si effet, c'est visé. J'ignore même qui a eu cette initiative, mais en tout cas c'est une belle initiative, puisque le rideau fermé, entre le premier acte et le deuxième acte, l'orchestre joue un interlude qui n'est autre que la petite suite « Jeux d'enfants » de Bizet, évidemment, aussi, encore d'ailleurs. Heureux, mais c'était très bien et magnifiquement joué par l'orchestre, magnifiquement dirigé par le chef.
Là. C'était un beau moment aussi.
Très beau moment.
Fin de cette première partie d'émission, une courte virgule musicale avant de retrouver Serge Chausier et Nadine Laurens, notre invité d'honneur. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
Et l'on retrouve donc Serge Chausier, Nadine Laurens, directrice des études musicales à l'ISDAT, l'Institut supérieur des arts et du design de Toulouse. Si l'on vous a invité, Nadine, c'était pour parler bien sûr de ce week-end Toulouse Guitare, mais c'est aussi pour parler d'un projet encore dans lequel les élèves de l'ISDAT sont impliqués. Ce projet, c'est un programme dédié à la fameuse Missa Criolla d'Ariel Ramirez avec les étudiants de l'ISDAT et donc avec un groupe Alturas, qui est formé de musiciens traditionnels péruviens. Ce programme fait l'objet de 3 concerts. Ils ont lieu le 12 octobre au Centre culturel Le Kiwi de Ramonville, le 14 octobre à Saint-Pierre-des-Cuisines dans le cadre du Festival Toulouse des Orgues et le 15 octobre à Bagnères-de-Bigorre en partenariat avec le Festival des Voix du Vallon. Expliquez-nous ça un peu plus en détail. Et tout d'abord, en ce qui concerne les différents protagonistes de cette production, ce groupe Alturas, alors on en a parlé un petit peu avant l'émission, je l'ignorais, mais vous êtes liés à eux depuis longtemps en fait.
Tout à fait, avec le groupe Alturas, nous nous sommes rencontrés en 96. Et grâce à une association qui avait créé au Pérou, dans un petit village de montagne, un dispensaire pour enfants. Et cette association donc de Ramonville-Saint-Agne a fait venir le groupe Alturas pour se produire en France. Je les ai connus à ce moment-là. Et nous avons effectivement, ça a été une belle rencontre qui dure toujours aujourd'hui en 2023. Nous avons énormément collaboré ensemble et surtout non seulement interprété la Missa Criolla avec différents chœurs de la région Occitanie, mais également une autre œuvre d'Ariel Ramirez bien connue qui est la Navidad Nuestra. Et surtout, nous avons beaucoup, beaucoup travaillé dans le milieu scolaire. Alturas venait en France parler de leur pays, de leur culture, de leur musique. Et nous intervenions dans les établissements scolaires, primaires et collèges et lycées. Et évidemment, l'objectif était de faire se produire les élèves avec Alturas. Donc, ils apprenaient les chants avec leurs enseignants. Et lorsqu'Alturas arrivait, on mettait tout ça en commun et on faisait un concert pour les parents des élèves des collèges et des lycées.
D'où donc ce projet. Alors, les étudiants de l'ISDAT, sans le chœur des étudiants de l'ISDAT, dirigé par Julien Garde.
Voilà.
Et puis, il y a aussi le chœur de l'Université de Toulouse.
C'est ça, le COET, le chœur de l'Université de Toulouse, dirigé par Claire Subiette. Parce que, donc, nous, le chœur des étudiants de l'ISDAT, c'est un chœur d'à peu près 45 étudiants. Et on souhaitait le renforcer un petit peu, parce que, vous écouterez, on a commencé les répétitions hier soir. Le chœur a fait un magnifique travail sous la direction de Julien Garde. Et ce sont des voix jeunes, de belles voix pures. Et on s'est dit que c'était important aussi de les mettre en nombre, parce qu'il y a besoin de puissance aussi sonore, profonde. Et Claire Subiette a très gentiment accepté notre proposition d'associer certains étudiants de son chœur à la Missa Criolla.
Et donc vous serez au piano, parce que rappelons-le, vous êtes pianiste de formation.
Tout à fait.
Et puis cette Missa Criolla, Serge, on peut dire, c'est une œuvre très très belle.
Ah mais magnifique, une œuvre vraiment très colorée et qui a toujours un succès fou.
Composé non pas par un péruvien, mais par un argentin, puisque Ariel Ramirez est argentin. Alors, les 3 lieux. D'abord, il y a ce centre culturel, le Kiwi, de Ramonville. Mm-hmm. Comment ça s'est fait d'ailleurs de jouer Parce qu'il faut une salle quand même assez vaste pour accueillir une telle œuvre, puis l'effectif qui va avec.
Le départ de ce projet s'est fait en collaboration avec le Festival Toulouse les Orgues. Et je remercie Yves Reichsteiner de nous avoir associés à sa programmation. Donc, une fois que le concert avec le festival a été calé, je me suis dit que c'était quand même très dommage d'avoir un groupe comme ça sur place à Toulouse et de ne faire qu'un seul concert. C'était frustrant pour tout le monde. Donc, Ramonville, il y a ce fameux comité de jumelage de Ramonville. ville avec l'Espagne et qui a des liens avec le Pérou, à qui j'ai proposé la prestation de la Missa Criolla, et également à Bagnères de Bigorre, puisque donc dans le cadre du festival Les Voix du Vallon, dont je suis la directrice artistique,
c'est un festival fondé qui a l'an dernier, voilà, hein, qui, enfin, même cette année,
l'été, c'était la l'année première, dernière, première c'était la deuxième édition.
C'est la deuxième édition en 2023.
Et voilà, ben, j'ai proposé aussi au bureau du festival de dire, ben, écoutez, est-ce que vous acceptez la Missa Criolla au mois d'octobre? Ça fait une suite de notre festival. Et comme ça, je pense que à la fois pour les étudiants, pour le chef de chœur et pour Altura, c'est une belle semaine. On n'est pas frustré, on va faire les concerts trois fois, dans différents lieux, avec des programmes un petit peu différents aussi.
Donc, en plus, fait vous un allez aller à Bagnères, là-bas. Bon, ça sera là à Logrin. Hein.
C'est ça, là,
c'est
Logrin,
le dimanche à Logrin à 17h30.
Donc, à 17h.
À 17h, pardon.
Oui.
Et alors, petite particularité, c'est que pour le concert à Toulouse-les-Orgues, il y a en plus des extraits du Requiem de Fauré.
Exactement. Parce qu'évidemment, Evrai Steiner accepte la Missa Criolla, mais on se dit quand même, dans le cadre d'un festival d'orgue, il faut mettre un petit peu d'orgue.
Eh ben oui.
Et on a souhaité donc associer ce monument aussi qu'est le Requiem de Fauré à la Missa Criolla. Et l'orgue, l'explorateur, sera donc à Saint-Pierre-des-Cuisines et sera tenu par les trois étudiants organistes de l'ISDAT qui accompagneront le chœur de Claire Suhubiette dans des extraits du Requiem de Fauré.
C'est un programme formidable, hein,
ah oui,
associer la Missa Criolla avec le Requiem de Fauré.
Oui. C'est inédit, je pense.
Ah, je crois, oui,
j'imagine, c'est vraiment deux styles très différents, oui, mais qui se complètent. Hein, donc, belle idée. Et de toute façon, c'est un grand anniversaire pour Gabriel Fauré.
À partir de l'année prochaine.
Oui, oui,
mais... On est un petit peu en avance, mais autant commencer. De toute façon, Fauré, on ne l'entend jamais assez à mon goût. Alors, moi, ça me va très bien, surtout le Requiem, qui est quand même son œuvre maîtresse.
Bah, ouais.
Et je pense qu'on va l'entendre à plusieurs reprises lors de cette année 2024 centenaire de la mort de Gabriel Fauré. Le groupe Alturas avait enregistré cette Missa Criolla, mm-hmm, avec José Carreras. C'était un enregistrement ou c'était une tournée de concert?
Non, c'était une tournée de concert. Le groupe Alturas a enregistré la Missa Criolla avec un chœur allemand dans les années 90. Mais avec José Carreras, nous nous sommes produits à deux reprises avec lui lors d'un festival en Italie, en Émilie-Romagne, en 2008 et en 2012 pour trois concerts sur El Duomo de la cathédrale de Milan, où là, on a vécu aussi des moments merveilleux et des moments d'émotion intense avec un chœur italien. Et José Carreras était le soliste de la Missa Criolla et nous étions humblement juste là pour l'accompagner.
Eh bien, nous allons écouter un extrait de la Missa Criolla, le Kyrie, et c'est une version du groupe Alturas qui accompagne ici le ténor espagnol José Carreras. la Missa Criolla d'Ariel Ramirez et son poignant Kyrie dans une version du groupe Alturas avec le ténor José Carreras. Une œuvre et un groupe que vous allez entendre avec le chœur des étudiants de l'ISDAT, le chœur de l'Université de Toulouse et Nadine Lorenz au piano le 12 octobre au Centre culturel du Kiwi de Ramonville, le 14 octobre à Saint-Pierre-des-Cuisides dans le cadre du Festival Toulouse des Orgues et donc le 15 octobre en partenariat avec le Festival Les Voix du Vallon à Bagnères-de-Bigorre, à la Halle aux Grains. Il y a deux autres rendez-vous à noter sur vos agendas cette semaine. En premier, le concert du cycle Les Grands Interprètes, jeudi 12 octobre à 20h à la Halle aux Grains de Toulouse cette fois-ci. La saison 23-24 s'ouvre avec les musiciens du Louvre de Marc Minkowski, Serge.
Oui, alors c'est un ensemble qui est souvent invité par les grands interprètes, hein, qui s'est lancé dans un répertoire aussi large qu'imprévisible apparemment, puisque évidemment ils font des relectures des œuvres de Handel, Purcell, Rameau, mais ils vont jusqu'à Berlioz, Bizet et Massenet, hein, donc c'est vraiment un ensemble assez particulier. Et Marc Minkowski vient avec eux pour un ensemble de 5 concerti grossi, extrait des 12 concerti grossi de l'opus 6. Tout est consacré à Handel, il a déjà pas mal dirigé Handel, y compris des opéras en concert à Toulouse. Cette fois, ce sera uniquement des œuvres instrumentales avec son ensemble. Bon, ce recueil de Handel est magnifique, hein, avec une grande variété de styles, des sonates en trio, des arias, des ouvertures à la française, symphonie, à l'italienne, des fugues. Bon. Donc, on aura vraiment un beau panorama de l'œuvre du caro sassone, comme l'appelaient les Italiens, donc ce cher saxon, donc, qui est un Européen en quelque sorte, hein, à l'époque, puisque allemand, il est allé en Angleterre.
Mais à l'époque, les compositeurs circulaient beaucoup.
Voilà. Hein. Donc voilà, c'est ce premier concert de la saison Grands Interprètes qui invite Marc Minkowski et les musiciens du Louvre.
Voici un des 6 concerti grossi opus 3 de Handel, interprété par les musiciens du Louvre sous la direction de Marc Minkowski. Il s'agit du 3e et de son mouvement Largo et Staccato. Le premier mouvement, Largo et Staccato du concerto grosso numéro 3, opus 3 de Georg Friedrich Handel, dans une version des musiciens du Louvre dirigée par Marc Minkowski, l'un des 6 que vont interpréter les mêmes à la Halle aux Grains le 12 octobre à 20h pour le premier concert de la saison des grands interprètes, puisqu'il semble que le programme ait changé, Serge, finalement. Ce serait l'intégrale des concerti grossi opus 3
opus
et non pas
3.
Opus 6.
Oui, c'est ce qui apparaît sur le site des grands interprètes.
Bon, alors c'est pas rare qu'il y ait des changements comme ça,
oui,
dernière minute. Et puis le lendemain à 20h, toujours à la Halle aux Grains, concert de l'Orchestre National du Capitole qui accompagne un autre enfant du pays, Serge, après Thibaut Garcia samedi à Toulouse Guitare. Nous allons pouvoir entendre Bertrand Chamaillou dans le très beau concerto pour piano d'Edouard Grieg.
Oui, il ne l'a jamais joué au moins à Toulouse, hein, et donc c'est peut-être une rareté à laquelle nous allons assister, donc on est tout heureux. C'est un un programme de musique nordique, en quelque sorte, hein, scandinave, puisque alors l'orchestre sera dirigé par Ryan Bancroft, qui était déjà venu l'année dernière, qui avait eu un gros succès, à la fois de la part du public et de la part des musiciens, qui avaient bien aimé sa direction. Il est issu de Los Angeles, il vient de Los Angeles, et c'est intéressant de voir ce programme qui va débuter par une œuvre contemporaine d'une compositrice, Andrea Tarodi, compositrice suédoise,
comme son nom ne l'indique pas du tout.
Voilà, qui est née en 1981, donc qui est une
comme
jeune...
Comme Bertrand Chevalier, d'ailleurs.
Voilà, qui est une jeune compositrice, et c'est une œuvre qui s'appelle Liguria, donc c'est pour évoquer la mer de Ligurie, donc au large de l'Italie. Ensuite, il y aura donc le concerto pour piano en la mineur d'Edvard Grieg, un grand concerto
romantique.
L'un des grands concertos romantiques du répertoire. Donc, on va apprécier, j'en suis sûr, Bertrand Chamaillou dans ses œuvres-là. Puis enfin, une œuvre qui est assez rarement donnée, la symphonie numéro 4 du compositeur danois Carl Nielsen. Cette symphonie qui est sous-titrée L'inextinguible. Alors, Carl Nielsen lui-même déclare, cette symphonie décrit les sources les plus primitives du flux vital et le bonheur de sa perception. Et donc, il conclut, la musique est la vie, comme elle, inextinguible. Donc, c'est une œuvre pleine de vitalité et d'énergie.
Et effectivement, rarement donnée en concert.
Très rare.
En particulier à Toulouse, donc il ne faut pas rater ça.
Ah non.
Je n'ai pas de version du concerto pour piano de Grieg joué par Bertrand Chamaillou à vous proposer, mais nous allons tout de même écouter un extrait de cette œuvre magnifique, le premier mouvement Allegro Molto Moderato avec Nikolaï Louganski au piano. Le premier mouvement Allegro Molto Moderato du concerto pour piano d'Edvard Grieg, joué par Nikolaï Louganski, mais c'est donc Bertrand Chamaillou qui officie au clavier pour l'interpréter ce vendredi 13 octobre à 20h à la Halle au Grain, aux côtés de l'Orchestre National du Capitole dirigé par Ryan Bancroft. Au programme de ce concert, il y a donc aussi Liguria d'Andrea Tarodi, ainsi que la symphonie numéro 4 L'inextinguible de Carl Nielsen. Réservation et billetterie en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. Je rappelle que le festival Toulouse des Orgues se poursuit jusqu'au 15 octobre et qu'il y a encore beaucoup de belles choses à y entendre. Programmation, réservation et achat des places en ligne sur le site www.toulouse-les-orgues.org. Et parmi les belles choses à entendre, il y a notamment le concert Missa Criolla et Requiem que donne le groupe Alturas, le chœur des étudiants de l'ISDAT et le chœur de l'Université de Toulouse avec Nadine Laurens au piano samedi 14 octobre à 17h30 à Saint-Pierre-des-Cuisines. Avant cela, il y a un concert jeudi 12 octobre à 20h30 au Centre culturel Le Kiwi de Ramonville. Puis il y en a un autre le dimanche 15 octobre à 17h à la Halle aux Grains de Bagnères-de-Bigorre. Renseignements sur le site www.lesvoixduvallon.fr. Je rappelle enfin que le premier concert de la saison des grands interprètes a lieu ce jeudi 12 octobre à 20h à la Halle aux Grains de Toulouse. C'est l'orchestre des musiciens du Louvre qui s'y produit en y donnant l'intégrale des 6 concerti grossi opus 3 de Handel. Réservation et billetterie en ligne sur le site www.grandsinterprètes.com. Tous mes remerciements à Nadine Laurens et à Serge Chauzy pour leur participation très active à cette émission. Émission qui a été réalisée par Christophe Aubry. Podcast téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Et merci à tous ceux qui étaient encore une fois à notre écoute. Excellente semaine musicale à tous.